se quereller sur la question de savoir si les dieux existent ou pas, s'ils croient relève de l'irrationnel ou pas, il suffit de se poser la question des effets que les dieux ont sur les hommes qui s'y fient, d'observer ce que les dieux, qu'ils existent ou pas, leur font faire. La réponse, se laissant formuler toute seule, qu'on se contente de considérer le catalogue des cathédrales, massacres, découvertes, exécutions, inventions qu'on pouvait mettre à leur crédit, et il faut se rendre à l'évidence que les dieux sont très actifs parce qu'ils produisent beaucoup d'effets. Il faut penser toute chose comme si elle était un dieu. Telle était la proposition que le pragmatisme de William James offrait à méditer à un monde préférant penser la vérité comme quelque chose qui releverait de l'alternative. C'est ce qu'écrit notre invité dans son nouvel essai. Laurent de Sutter est à nos côtés. Où en êtes-vous avec votre to-do? Elle est souvent oppressante, parfois réconfortante. La to-do list, c'est tout à l'heure dans notre grand dictionnaire avec la philosophe Gaëlle Jean-Marc. Soyez les bienvenus dans Les Dieux dans tout ça. Vous êtes né en 1977, vous êtes professeur de théorie du droit à la VUB, éditeur et auteur, auteur de nombreux essais. Vous savez combien il y en a? Vous comptez encore?
On doit être à 27 maintenant.
Allez, quelques titres. Théorie du kamikaze, après la loi, indignation totale, qu'est-ce que la pop philosophie ou encore éloge du danger? Et le tout dernier a pour titre super faible, sous-titre pensée au 21e siècle. J'en lisais un extrait en ouverture, nous allons en parler. Savez-vous qui vous êtes, Laurent de Sutter?
Ah, j'en ai aucune idée, mais j'aimerais bien si quelqu'un pouvait m'envoyer un message pour me l'expliquer, j'en serais assez ravi.
Ça vous intéresserait d'avoir une réponse?
Ça m'intéresserait d'avoir une réponse parce que toutes les réponses sont intéressantes, puisque on n'est que finalement ce que le monde nous renvoie d'une certaine manière. On n'est que l'ensemble des choses qui sont extérieures à nous et puis qui, ramenées à nous, finissent par définir une espèce de puzzle énigmatique dont on finit peut-être par donner le sens à la toute fin.
Comment recevez-vous le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate?
Alors moi j'ai toujours trouvé que c'était une phrase d'une débilité profonde.
Pourquoi?
Parce que, si vous voulez, c'est une autre phrase qu'on pourrait opposer à celle de Socrate, une phrase du regretté Clément Rosset, qui dans un de ses livres disait quelque chose comme ça, qu'au fond, moins on se connaît, mieux on se porte. Et moins on se connaît, mieux on se porte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins on a de certitude sur qui on est, qui on serait, quelle serait notre identité, quelle serait notre essence, etc., plus, au fond, on est ouvert à ce que le monde nous propose, à la possibilité de devenir autre chose que cette chose dont on ne sait pas qui nous sommes. Et je crois que la différence qui peut exister entre être, cette chose qu'on peut connaître ou qu'on pourrait connaître, et devenir, cette chose qui n'arrête pas de se transformer, sur laquelle on a une prise, qui est une prise relativement faible, ça fait la grande différence, d'une certaine manière, entre ce qui relève, disons, de l'ordre d'une certaine police de la pensée, je suis ceci, respecte-moi, etc., etc., et ce qui, de l'autre côté, relève, au fond, d'une forme d'appétit ou de curiosité par rapport à l'ouverture au monde, disons.
Ces premières questions que je vous pose, elles sont en lien avec un précédent livre qui avait pour titre « Pour en finir avec soi-même ». Pourquoi est-ce que, pour vous, changer sa vie ou changer de vie, ça signifie en réalité constamment la normaliser?
La vie, c'est si elle a une, si on peut en donner une définition, bonne chance quand même, mais si on peut en donner une définition de la vie c'est quoi? C'est transformation, métamorphose, flux, quelque chose que nos amis chinois ont compris depuis plus de 1500 ans quand même. Quand on parle du changement ou de la transformation, je pense que tout l'enjeu est celui de savoir quel type de transformation on veut. Soit la transformation quelque chose qui vient nous menacer, quelque chose qui vient nous mettre dans une situation qui est une situation de péril, soit c'est quelque chose que l'on peut apprendre à naviguer. Voilà, à nouveau, c'est un choix qu'on peut faire, on peut très bien, et la philosophie a beaucoup fait le choix justement de la stabilité, de quelque chose qui permettrait de contrôler quelque chose comme un changement, qui permet d'une certaine manière de prédéterminer ce qui va arriver.
Mais pour vous, ça c'est mission impossible?
Non seulement c'est mission impossible, mais derrière cette impossibilité, il y a quelque chose comme une brutalité extraordinaire. C'est de vous dire, non seulement par rapport à vous-même, ce que vous êtes, par rapport à, je ne sais pas, un événement dans le monde, par rapport à une réalité amoureuse, par rapport à une œuvre d'art, etc., etc., que tout est déjà là, que quelque part, il n'y a plus rien à faire. Alors ça peut paraître absurde, formulé comme ça, mais c'est pourtant ce que la pensée occidentale, héritée des Lumières, nous a légué comme bagage de penser le monde comme quelque chose qui a déjà eu lieu, et qui nous est laissé à nous d'apprécier de manière plus ou moins fine, de manière plus ou moins subtile, c'est-à-dire au fond de juger de manière plus ou moins précise en disant oui, ceci est beau, ceci est laid, ceci est vrai, ceci est faux, ceci est juste, ceci est injuste, etc., etc., sous la forme d'une espèce de couperet qui tomberait et qui viendrait arrêter toute chose qu'on a jugé. C'est bien, on peut retourner dans son canapé. Évidemment, où est le changement dans cette affaire? Où est la transformation? Où est-ce qui arrive? Nulle part. Et d'une certaine manière, c'est une manière comme une autre de ne vouloir en rien savoir.
On va y revenir bien sûr à cette question de la critique, à cette question du jugement, mais d'abord écoutons cette voix, celle d'une philosophe que vous connaissez et que vous admirez, je crois.
Je ne suis pas humain, je ne suis pas d'abord une citoyenne de la cité, etc.
Pourquoi Isabelle Stengler,
ça ? Je suis d'abord sensible, c'est-à-dire que le monde auquel j'appartiens me pose des questions, nous pose des questions. Et c'est comment être à la hauteur des questions qui se posent. Il s'agit d'apprendre à ralentir et à s'arrêter à ça. C'est à nous qu'on a dit que le monde était là pour nous et que nous pouvions, nous étions libres d'en faire ce que nous voulons. Moi, je pense en termes de résurgence, c'est-à-dire que cette sensibilité, elle appartient à l'ensemble des enchevêtrements des êtres qui peuplent nos mondes.
Vous l'avez forcément reconnu, c'est donc la philosophe belge Isabelle Stengers. Elle était avec nous récemment dans Et Dieu dans tout ça. Elle se dit d'abord sensible, et vous?
C'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr que j'utiliserai les mêmes mots qu'Isabelle, qui est effectivement une personne pour laquelle j'ai une admiration immense. C'est vraiment, on a la chance dans ce pays d'avoir une ou deux immenses penseuses d'envergure mondiale, et évidemment elle est une des deux.
Et l'autre,
hein. L'autre, bah, l'autre c'est évidemment Vinciane Després.
Voilà.
Mais je ne pense pas que j'utiliserai le mot sensible, parce que la question de la sensibilité implique d'une certaine manière que le problème de notre rapport au monde est un rapport de tact presque, disons, pour utiliser un mot technique, phénoménal. Je suis peut-être plus soucieux de la dureté de ce qui est et de la nécessité d'accepter que cette dureté est une dureté fabriquée. Je veux dire, le monde dans lequel on vit est un monde qui est un monde fabriqué, un monde solide, un monde de matière, un monde de route, un monde de train, un monde de câbles, de communication, etc. Un monde de dispositifs qui sont des dispositifs durs. Je n'ai pas besoin d'être sensible à ces choses-là. Par contre, j'ai besoin de savoir que ces choses existent. Donc, moi, ce qui m'intéresse...
Mais vous pourriez être sensible, pardonnez-moi, Laurent de Sutter, au chant des oiseaux, par exemple. Ce n'est pas une question de câble et de dureté, là.
Bien sûr, on peut être sensible au chant des oiseaux. Le problème de la sensibilité, si vous voulez, c'est que ça court, à mon avis, qu'une partie du monde. Là, ça marche pour le chant des oiseaux. Ça marche difficilement pour les collecteurs d'égouts, si vous voulez. Pourtant, ça fait partie de la même réalité. Et moi, j'aimerais que l'on puisse penser les collecteurs d'égouts au même titre que le chant des oiseaux, parce que ça fait partie, en effet, du monde, et ça fait partie des conditions qui nous permettent d'exister, et des conditions qui nous permettent également de se transformer, en transformant, évidemment, ce monde. Donc il y a une dimension peut-être plus brutaliste, comme en architecture, si vous voulez, dans ce que j'essaie de faire, même si, bien évidemment, je reconnais la légitimité, l'importance du geste que Isabelle propose, qui est de dire il y a d'abord le monde, et puis il y a nous. Être sensible, c'est dire le dehors, d'une certaine manière, est ce qui importe en premier, plutôt qu'un dedans qui est un dedans qui lui-même n'est que le produit de la multiplication de ces dehors, depuis les bactéries qui nous font respirer.
Et le monde qui nous pose sans cesse des questions.
Et le monde qui nous pose sans cesse des questions auxquelles on a tendance à vouloir répondre trop vite.
Super faible, c'est donc votre nouvel essai. Pourquoi est-ce que la vie n'est pas une question de force pour vous?
Disons que le problème ici, c'est qu'on a hérité d'un rapport au monde qui est un rapport basé sur la force. On passe son temps à lire le monde. On passe son temps à, je ne sais pas, commenter un peu tout ce qui vient, commenter un discours politique, même nos relations amoureuses, une fois qu'elles sont terminées, voilà, quel connard c'était ce type, etc. Bon, on passe notre temps à, quelque part, triompher du monde, parce que l'on pense que ce triomphe permet de l'expliquer.
Le monde est inexplicable ?
C'est pas qu'il est inexplicable, c'est que l'expliquer ne sert à rien. Les vérités, s'il y en a, c'est des outils, c'est des choses qui elles-mêmes participent au monde au même titre que toutes les autres choses. Et avec ces vérités, il s'agit de construire également des relations.
Mais qu'est-ce que ça pourrait être alors une vérité pour vous ?
Je ne sais pas moi, une vérité ça pourrait être... qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme vérité qui ne soit pas une vérité complètement triviale ? C'est une bonne question, en fait. Qu'est-ce que ça pourrait être une vérité? En fait, si vous voulez, moi, je suis tellement prêt à accepter que n'importe quoi relève de la vérité, pour autant qu'on en fasse quelque chose, que j'ai des difficultés à dire, voilà, ceci serait vrai par rapport à autre chose qui serait faux.
Ce serait bien de pouvoir l'illustrer, quand même, Laurent de Sutter.
Oui, mais je ne suis pas tout à fait sûr qu'on ait besoin d'illustration. Parfois, c'est pas mal de demeurer dans un espace qui est un espace d'abstraction, parce que l'espace de l'abstraction, c'est un espace de l'appel, ou un espace de l'aspiration. On n'est pas immédiatement ramené à quelque chose... Ah oui, ah, c'était donc ça. Ah oui, non, non. Non, pendant un petit moment, c'est pas mal de ne pas comprendre en réalité. Parce que le fait de ne pas comprendre nous fait fonctionner comme...
Ça permet de laisser davantage le champ ouvert.
C'est de se dire, il y a des possibilités qu'on ne maîtrise pas, des possibilités qui ne font pas partie de la comptabilité des possibilités à laquelle nous sommes habitués. Et c'est pour ça que l'idée de vérité est une idée, moi, qui m'emmerde. Elle m'emmerde parce que l'usage que nous faisons du concept de vérité dans notre tradition est un usage qui est un usage qui vise à nouveau toujours à arrêter. C'est une espèce de stop. Voilà, on a atteint, en fait.
Ça fige.
Ça fige, et donc parce que ça fige, ça rend impossible. C'est une arme que l'on peut utiliser pour faire taire ceux qui ne partagent pas cette vérité. C'est une arme qu'on peut utiliser également pour imposer qu'il n'y ait pas d'autre vérité à la vérité en question, en l'apprenant, en l'enseignant, etc., etc. Et donc la question des usages, de leur production, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette vérité, devient soudain quelque chose de tout à fait passé sous silence, alors que c'est en réalité la seule chose qui est importante. C'est pourquoi une vérité compte pour nous. Et comment va-t-on faire compter cette vérité dans notre vie? C'est au fond ça la grande question, qui est la question héritée en effet du pragmatisme américain, notamment du pragmatisme de William James, auquel Isaac Stengers est évidemment très sensible. C'est qu'est-ce que n'importe quoi, une vérité mais aussi un mensonge, rend possible? La Terre est plate, ça fait hurler de rire tout le monde, sauf ceux qui croient mortellement que la Terre est plate. Bon, on peut se poser la question de
savoir... C'est la question des effets dont je parlais en vous citant en ouverture.
C'est la question des effets. Quel effet ça fait de dire ça? Est-ce que ça fait un effet de dire que la Terre est plate? Bonne chance pour fabriquer, je sais pas moi, des avions, ou des cartographies, ou des machins, avec l'idée que la Terre est plate. Avec l'idée que la Terre est ronde, on a réussi à bricoler deux, trois trucs. Est-ce que ça veut dire que l'idée que la Terre est ronde est plus vraie que l'autre? Je sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'elle nous permet de continuer cette idée-là. Tandis que l'autre, elle nous permet de pas vraiment d'aller quelque part, si ce n'est de tourner en rond dans d'autres espèces d'assiettes plates. Voilà. Donc il y a quelque chose là qui est central. Hein. C'est vers où on peut aller? Quelle ouverture peut nous appeler? Quelle exploration est rendue possible par l'affirmation de ceci ou de ça, de Dieu existe, Dieu n'existe pas, la Terre est ronde, la Terre est plate, qu'est-ce que cela permet plutôt que qu'est-ce que cela interdit?
La superforce est la condition contemporaine de l'être humain, une condition de pensée, une manière de regarder, de réfléchir, un système d'évaluation. C'est ce que vous écrivez, Laurent de Sutter. Et cette superforce, en fait, elle est fort liée à un projet philosophique, à savoir la critique. Que pouvez-vous nous dire en quelques phrases de la philosophie critique, Laurent de Sutter?
La critique, c'est un mot qu'on utilise tous les jours sans vraiment y faire attention. On dit, ah, c'est important d'avoir de l'esprit critique, il faut enseigner une vision critique des choses à nos enfants, etc. C'est un mot comme ça qui circule partout, on parle de critique de cinéma, tout ça.
Et c'est pas important d'avoir un esprit critique pour vous?
Eh bien, je crois pas que c'est important. Ou plutôt, je crois que ce n'est plus important. Je pense que ça a été très important, et ça a été très important, les historiens l'ont montré, démontré depuis, je sais pas, disons le milieu du XXe siècle.
Pour nous sortir des dogmes, notamment.
Il y a eu tout un mouvement qui nous a permis de nous sortir des dogmes religieux, de remettre en cause un certain type de pouvoir, un certain type d'absolutisme, de remettre et de discuter aussi un certain type de régime de vérité venu des académies scientifiques, etc. C'est un héritage qu'il ne s'agit pas de rejeter, cet héritage qu'on appelle l'héritage des Lumières. Mais il s'agit de se poser la question de savoir si, aujourd'hui, ce pouvoir-là, ce pouvoir de désassujettissement par rapport à des autorités reçues, c'est un pouvoir qui fonctionne encore, si effectivement ça continue à nous servir à quelque chose. Et la critique, parce que critique, ça vient du grec crisis, qui signifie juger, mais qui signifie aussi séparer, diviser, faire la distinction, faire la part des choses. Bon, cet outil est un outil qui est redoutable, parce que c'est un outil qui enlève des autorités anciennes la force qui était la leur, la force du roi, la force de l'Église, la force des académies de sciences, et les remet à tout un chacun. Nous sommes tous devenus les dépositaires de la capacité de juger, donc de la capacité de déterminer, de séparer, de distinguer ce qui est vrai du faux.
Ouais, vous parlez d'une démocratisation de la raison.
Absolument. Et donc c'est énorme. C'est très important, la démocratisation de la raison. C'est très important de ne pas la laisser.
Mais vous la critiquez quand même dans votre texte.
Alors, je ne la critique pas, j'en marque,
si je puis dire.
J'en marque quelque chose qui est de l'ordre de l'épuisement.
Et le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut avoir tort? Tout le monde peut avoir raison, plutôt?
Le problème, c'est que tout le monde a la même force et les mêmes outils. Tout le monde, mais littéralement tout le monde, pour prétendre à la raison, pour prétendre à l'avoir raison et affirmer par contre-coup l'avoir tort qui est en face. Qu'est-ce que ça fait ça? Ben, ça fait une manœuvre que les jeux amateurs d'échecs connaissent très bien, ça s'appelle le pat, c'est-à-dire une situation où aucun mouvement, plus aucun mouvement n'est possible, parce qu'on est confronté à des forces égales, donc à une espèce de système homéostatique dans lequel cette victoire que la force est censée donner, la victoire du meilleur argument sur le plus faible, la victoire de l'idée la plus puissante sur l'idée la plus débile, etc., etc., devient une victoire impossible parce que toutes les idées sont défendues par les mêmes instruments avec la même force.
C'est ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui, dans le brouhaha, dans le boucan des arguments autour de ce qui se joue au Proche-Orient ?
Bien sûr. C'est un exemple qui est un exemple tragiquement paradigmatique, où la seule chose que l'on peut observer dans ce mécanisme de pour et de contre, et dans des échanges d'arguments qui se transforment très vite en échanges d'insultes, parce que c'est tout ce qui reste à un certain moment, c'est une spirale où les plus violents, les plus brutaux, les plus sanglants finissent toujours par avoir raison. Et on est confronté effectivement aujourd'hui dans un conflit tragique entre un gouvernement d'extrême droite complètement malade et une organisation terroriste complètement débile.
Il faut arrêter de vouloir avoir raison.
Si on le peut, ça vaut la peine d'essayer. Et tout le projet de ce livre, c'est de dire qu'on le peut. Et donc peut-être ça vaut la peine d'essayer. Ça vaut la peine d'essayer dans la mesure où ce que laisse de côté la question de la force et la question du jugement, c'est précisément tout ce qui se soustrait à la manière dont, à nouveau, les choses sont arrêtées. Qu'est-ce que ça change, d'une certaine manière, que l'on dise que les Palestiniens ont raison ou les Israéliens ont raison ? À part impliquer que tout le monde, d'une certaine manière, y participe, et puis à la fin, qu'est-ce qu'on fait ? On compte les points ? On compte les morts ? On compte... Et l'idée que j'essaie de défendre dans Super Faible, c'est que c'est quelque chose non seulement possible, mais de désirable, mais aussi qui, quelque part, a toujours eu lieu. Il y a toujours eu des indices et des indications qui nous ont permis d'échapper à cette espèce de prison de la raison héritée des Lumières, héritée de la modernité. On a toujours eu des outils pour aller voir ailleurs. Certains outils qui sont des outils très anciens. Dans le livre, je parle d'un philosophe italien du XVIIe siècle, un peu oublié, qui s'appelle Giambattista Vico, qui a été un des premiers, d'une certaine manière, à nous dire qu'est-ce que ça nous apporte de déshabiller, d'une certaine manière, le monde pour en arriver à cette vérité parfaitement nue, c'est-à-dire, en fait, cette vérité qui n'a plus rien pour elle. Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de fabriquer des vérités qui soient des vérités qui se caractérisent par leur richesse, si j'ose dire, c'est-à-dire par le fait qu'on y ajoute des choses. C'est en ajoutant les choses qu'on parvient à dire peut-être ce qu'on est. Vous me demandiez tout à l'heure, voilà.
Qui êtes-vous ?
Qui êtes-vous ? Bon, si je suis quelque chose, c'est toutes ces choses-là que je partage avec n'importe qui d'autre, la couleur de mes yeux, la taille, une histoire, une anecdote des parents, des événements tragiques ou heureux dans ma vie, etc., etc. Ce sont toutes ces choses-là que je peux rajouter à moi-même, à ma biographie, qui finissent par dire quelque chose de moi. Est-ce que c'est ce que je suis ? Je ne sais pas. Par contre, c'est certainement une accumulation qui raconte une histoire et une histoire qui elle-même rend possible d'autres histoires. Regarder la vérité du point de vue de ce qui peut être enrichi davantage que du point de vue de ce qu'il faut appauvrir pour y arriver, c'est quand même une différence qui est une différence qui paraît considérable.
À propos de la critique et du jugement, écoutons la philosophe Barbara Cassin.
Pour moi, le jugement, c'est en effet... ce qu'on peut enseigner. C'est-à-dire qu'on n'enseigne pas à juger comme ci ou comme ça. On enseigne à prendre une distance par rapport à ce qu'on voit, à réfléchir et à juger. Et je prends toujours comme exemple ce que j'ai vu en Afrique du Sud quand je travaillais notamment avec la commission Vérité et Réconciliation. À ce moment-là, quand Mandela est arrivé au pouvoir, il y avait un musée particulièrement atroce. Un musée, d'art et tradition populaire, où on voyait pendant des salles, des statues de cire représentant les Khoisan, c'est-à-dire les peuplades qu'on dirait aujourd'hui originaires. Et quand Mandela est arrivé, il n'a pas fait démolir ça. Il a fait mettre un tout petit écriteau au milieu, mais bien visible quand même, qui était « Que pensez-vous de ce que vous voyez ?» Ça, pour moi, c'est génial. Rapport qualité-prix, c'est l'appel au jugement. Et que pensez-vous de ce que vous voyez ? Il n'y a rien de plus politique que cette demande, que cette exigence-là.
Barbara Cassin en 2020. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec elle ?
Je sais si j'aimerais bien être d'accord avec elle, parce que j'adore Barbara Cassin et ses travaux sur la sophistique grecque ont été et sont toujours d'une importance capitale pour moi. Et elle-même, d'ailleurs, connaît très très bien l'étymologie du mot critique. Elle en parle dans ses livres, des liens entre critique, crisis et première métaphysique grecque. Et c'est amusant de l'avoir retombé dans une espèce de cliché un petit peu humaniste, parce qu'on pourrait lire cette histoire d'écriteau comme quelque chose d'absolument inverse au jugement. C'est Nelson Mandela qui vient ajouter à un contexte une information supplémentaire qui change la totalité du contexte. Il ne s'agit pas de jugement, là. Il ne s'agit même pas d'une certaine manière de...
Mais ça offre la possibilité de...
Il s'agit au contraire de se rapprocher de ce que l'on voit. La distance que le spectateur pouvait avoir avant en regardant ce musée des traditions populaires, voilà, se trouve subitement annulée par cet écriteau qui vient nous y impliquer d'une manière plus forte. qu'est-ce qui était le cas avant.
Ouais, cela dit, elle défend le jugement. Elle dit que c'est très important que les jeunes aujourd'hui apprennent à critiquer, apprennent à juger. Et en se basant notamment sur les textes d'Hannah Arendt.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est à nouveau quelque chose que toutes les belles âmes défendent aujourd'hui. Pas assez d'esprit critique, je pense à la liste serait longue,
oui, mais
ça, des personnes qui aujourd'hui défendent ça. Moi, je ne suis pas tout à fait sûr que ça puisse véritablement aider. Je pense que les jeunes, puisqu'on parle d'eux, à nouveau c'est un groupe un peu énigmatique, les jeunes, mais enfin, ils sont très très bons pour critiquer, ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Le logiciel par défaut de notre mode de pensée aujourd'hui, c'est la première chose que l'on apprend. Évidemment, on n'apprend pas toujours la critique dans le sens que les belles âmes voudraient, c'est ça le problème, je crois. Et ils ne se rendent pas compte, à nouveau, qu'aujourd'hui, ceux qui manipulent peut-être de la manière la plus efficace les armes de la critique, ben, c'est peut-être les méchants. C'est peut-être les Steve Bannon et les Alexander Dugin. Ils sont très très forts dans la manipulation des outils de la critique et dans l'effectuation, dans le fait de leur lui faire sortir des effets qui sont des effets puissants. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est la manière dont la critique, aujourd'hui, n'est pas juste le privilège des gens bien informés, des gens bien nés, des gens bien éduqués. Que la critique, c'est devenu quelque chose que tout le monde partage. C'est ça qu'il faut se mettre en crainte. Tout le monde, absolument tout le monde. Et c'est ça le drame, c'est ça la tragédie contemporaine de la critique, la tragédie de cette espèce de patte de la force auquel on est confronté. C'est pour ça que je pense qu'il faut se poser la question de savoir si, plutôt que réfléchir en termes de critique, il ne s'agit pas de réfléchir en termes de ce que Gilles Deleuze appelait clinique, si vous voulez, donc une espèce d'observation du monde, qui est une observation qui ne vise pas à aller en retrouver la raison cachée, mais pour se poser à chaque fois la question de « mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc ?»
Et donc aller peut-être vers la question de la réparation. Laurent de Sutter, vous êtes l'invité des dieux dans tout ça cette semaine. Et puisque vous nous dites dans votre essai qu'un autre chaos est possible, alors ça nous fait une bonne raison, si je puis dire, d'écouter Christophe, les vestiges du chaos. Bon week-end avec la